Et bonjour à tous, bonjour Baptiste d'abord.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous et à toutes.
Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans le Forum des Sports. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette émission de demi-février. Laissez-moi vous présenter le petit sommaire avant de commencer. On va commencer par le tournoi destination. Tournoi destination habituel de cette période. Les 6 équipes, les 6 meilleures nations européennes de rugby se disputent la coupe destination. On passera ensuite avec les mondiaux de biathlon, Baptiste.
Oui, tout à fait, oui.
Les mondiaux de biathlon. Ensuite, je vous ferai la présentation de la saison de Formule 1 2024 à venir. On se dispersera un petit peu du sujet en parlant des formules de promotion, nos chères formules de promotion pour nos jeunes pilotes français particulièrement. Et enfin, les actualités locales, le récap palois de Baptiste. J'espère que tu as des nouvelles croustillantes sur Pau.
Oui, avec une petite nouveauté en fin de chronique. Donc tu vas nous faire un petit résumé des deux premières journées du tournoi destination. Là.
Ouais. Alors j'ai passé mes deux derniers week-ends comme tout fan de rugby à m'enchaîner les matchs sur France 2. Le premier match France-Irlande, ça fait 2 semaines d'affilée que la programmation télé nous fait commencer et c'est pas très bon signe à chaque fois. Match France-Irlande du vendredi soir, on était chaud, on voulait notre revanche après cette Coupe du Monde qu'on a fini en quart de finale. Après le tournoi de l'an passé où on avait déjà perdu face à l'Irlande, c'était le moment de prendre notre revanche. Bon, on l'a pas vu la revanche, hein. Match où on a manqué dans le combat, l'équipe de France n'a pas montré son visage habituel, une équipe endormie, sauf quelques individualités, là je vais vous citer Antonio, Movaca, Moefana, ou encore Gabriag, pour son grand retour que j'ai trouvé assez pertinent. On a été dominé dans le jeu aérien, James Lowe et Jack Crowley, ils ont arrosé notre troisième rideau qui a été en galère comme on n'a pas vu depuis 4 ans. Surtout James Lowe avec l'utilisation de son pied gauche, utilisation du pied gauche courante dans le jeu irlandais et bon, j'ai l'impression qu'on n'avait pas tout prévu ou alors les joueurs n'étaient pas prêts, mais il faut se rattraper. Bon, pour les deux autres matchs de la première journée du tournoi de destination, on va être un peu plus bref. Angleterre-Italie, l'Angleterre a gagné en dominant, mais bon, c'était un jeu anglais normal, j'ai envie de dire. Quelques petites actions qui ont donné des essais, un jeu dicté par le pied de George Ford. Ethan Roots et Tommy Freeman, les jeunes ont été bons. Mais moi, c'est surtout l'Italie qui m'a impressionné. L'Italie qui a joué libéré, la nouvelle Italie de Gonzalo Quesada. On a vu deux essais en première main avec un jeu libéré. C'est ça qu'on a envie de voir avec cette équipe d'Italie. Et enfin, un dernier match de cette première journée, Écosse-Pays de Galles. Alors un match à deux visages, puisque la première mi-temps a été très largement dominée par les Écossais dans le sillage de Duane van der Meer, surtout, qui a marqué un très bel essai. Une Écosse au niveau où on l'espérait, et des Gallois au niveau que l'on craignait en première mi-temps, avec une équipe très jeune. Alors, pour vous faire la comparaison, il y avait 13 joueurs en dessous de 24 ans, et McCarthy, alors si vous avez regardé le match France-Irlande, vous avez bien sûr repéré McCarthy, le jeune deuxième ligne de l'Irlande, qui a été extrêmement fort. Et bien McCarthy, s'il jouait dans cette équipe galloise, et bien il y aurait 10 joueurs plus jeunes que lui. C'est vous dire la jeunesse de cette équipe galloise. Et la fougue de la jeunesse de cette équipe galloise a surpris les Écossais et a été décisive finalement. Même si les Gallois ne devront se contenter que d'un petit point avec une défaite 27-26, score final.
Donc c'est la fin de la première journée, les Français pointent à la dernière place, étaient plus en route vers la cuillère de bois que pour le Grand Chelem. Ils se devaient de réagir après cette défaite, cette deuxième défaite consécutive face à l'Irlande. C'était jamais arrivé de 3 défaites consécutives sous le mandat de Galtier. Il se devait donc de réagir à Murrayfield face à l'Écosse.
Ouais, surtout que la dernière fois qu'on avait enchaîné 2 défaites d'affilée, c'était en 2021, on avait perdu contre l'Écosse puis contre l'Australie. Cet adversaire écossais, il ne nous réussit pas. Et qu'est-ce qu'on s'est fait peur ? On a été dominé dans le jeu d'arrière, encore une fois, comme rarement. On gagne du terrain seulement par des fulgurances personnelles. Là, j'ai en tête les percées de Gaël Ficou ou encore l'essai de Louis Bielbiaré, où il part de son aile, tchac-tchac, coup de pied en profondeur. Bon, c'était l'une des rares éclaircies. Une défense qui n'était toujours pas aussi pertinente que l'année dernière, une défense qui n'était pas nickel, qui nous assurait pas une assise sur le match.
Puis la touche aussi, on a été défaillant en touche.
Ouais, alors qu'on a des très bons sauteurs, hein, Cameron Wauquiez et Paul Gabriel font partie des meilleurs sauteurs français, bah, tout comme Charles Olivon. Hein. Ouais, j'ai l'impression que le nouveau staff n'arrive pas à insuffler un esprit de renouveau à cette équipe. Bon, après, qui on est pour critiquer, mais là, c'est ce qu'on voit depuis notre canapé.
C'est sûr.
Et au sujet du dernier essai polémique, mais l'arbitre, M. White, n'a pas vu le ballon aplati en direct. Aucune image n'a montré que le ballon était aplati. Bon, même si on sait que l'Écossais a aplati ce ballon, c'est quand même une victoire qui compte. C'est une victoire dans un tournoi destination face à l'Écosse en Écosse. Je pense qu'il ne faut pas oublier que cette Écosse, c'est un adversaire très redoutable. On prend. Les autres pays ne se gênent pas de célébrer des victoires, quelle que soit la beauté de celle-ci. Alors bon, autant en faire de même. Et pour les deux autres matchs de cette deuxième journée, il n'y a pas eu autant de spectacles. Hein. Un Angleterre-Pays de Galles qui, pour une fois, paraissait alléchant avec une équipe anglaise qui montre du renouveau, une équipe galloise qui aussi montre de beaux espoirs. Mais bon, ça a été un Angleterre classique, un Pays de Galles classique. Un match comme on pouvait s'y attendre, hein, des cartons jaunes, des essais un petit peu moches, score final 16-14. C'est pas un match qui fait se lever les foules, on a cru que le Pays de Galles allait pouvoir le faire, mais les Anglais sont arrivés, ont posé les barbelés sur le match et ont sécurisé la victoire.
T'as bien résumé le match.
C'est pas le match sur lequel on s'est le plus régalé. Hein. Et Irlande-Italie aussi, dernier match de cette deuxième journée du tournoi de destination. Les Anglais n'ont pas convaincu dans leur match, mais les Irlandais, eux, ont assuré, ils ont fait le taf. Un match dominé de la tête et des épaules par les Irlandais, une équipe qui maîtrise son sujet. Pas de blessés à signaler côté irlandais, aucun point encaissé, victoire 36-0. Prestation complète, prestation remplie. Pour moi, les Irlandais, ils se dirigent vers le Grand Chelem. Hein. Pour notre équipe de France, ce sera le week-end prochain. Là, c'était week-end de repos pour nos Français. Week-end prochain, match face à l'Italie. Victoire avec bonus offensif impérative. Et pour les petites dernières news, Thomas Laclaya s'est blessé avec le Racing, blessé aux côtes. Il sera remplacé par Alex Burin. Alors bon, moi je comprends pas parce que Alex Burin.
Je connaissais pas. Il joue à Agen, non ?
Agen, bah moi je le connais parce que vu que je suis la pro des deux, je l'ai déjà vu jouer plusieurs fois. Mais bon, bah Alex Burin, c'est pas le pilier qui fait se lever toute la pro des deux comme l'était à leur époque Laclaya ou Demba Bamba. Mais bon, il servira de partenaire d'entraînement. De toute façon, Galtier ne pouvait prendre personne à Toulouse, à l'UBB, à La Rochelle et à Toulon, étant donné que c'est déjà les quatre clubs les plus concernés par les joueurs en équipe de France. Mais bon.
On a vraiment, derrière Antonio, je ne sais pas qui on va émettre après ce poste de pied droit.
Il y a Tevita Tatafu de Bayonne qui devra attendre sa régularisation française pour jouer avec nous.
Mais pourquoi pas Tulagi, Pozolo Tulagi.
Tulagi en pied droit. Antonio, C'est le fantasme de tous les journalistes. Bon, moi, j'y crois pas. Mais bah, pour moi, c'était déjà Thomas Laclaya qui devait être installé en deuxième.
Bah, il est bon cette année avec
lui. Ouais, je comprends pas pourquoi il joue pas. Mais bon. On laisse Galtier faire sa tambouille. Toi, tu vas nous parler du biathlon. Il fait plus froid lors des mondiaux de biathlon que lors des matchs destination.
Ouais, il fait plus froid. Mais bon, avec l'hiver qu'on connaît, pas sûr qu'il faisait aussi froid. Donc, pendant 10 jours, tous les fans de biathlon avaient les yeux tournés vers la station de République tchèque de Nové Mesto pour les championnats du monde de biathlon. Alors, au programme, je vais vous présenter, donc il y a les relais, donc il y a les relais femmes, relais hommes, puis il y a le relais mixte avec deux hommes, deux femmes, et le relais simple, un homme, une femme. Donc ça, c'était pour la partie collective. Il y a les épreuves individuelles, il y a quatre épreuves individuelles au programme. Le sprint, c'est une course assez rapide, une quinzaine de minutes d'effort avec un tir couché, un tir debout, avec un classement qui va déterminer l'ordre de passage pour la poursuite, qui se déroule de généralement un ou deux jours après. Il y a aussi l'individuel, c'est un peu comme le sprint, mais c'est plus de l'endurance, c'est une 15-20 km avec deux tirs couchés, deux tirs debout. Et la mastart, où c'est vraiment tout le monde part en même temps et c'est une course un peu comme on peut voir au vélo. Donc, on va commencer par la première course qui était le relais mixte composé de Perrault Éric Perrault de Quentin Fillon-Maillet, de Justine Brezaz-Boucher, de Julia Simon. Et ils vont lancer la meilleure des manières, c'est cette Coupe du Monde, ces championnats du monde pardon, pour les Français, en s'imposant haut la main devant la Norvège et la Suède, qui sont quand même des références en relais. On peut noter aussi en milieu de championnat du monde un autre titre sur le relais simple mixte avec Lou Jean Monod et Quentin Fillon-Maillet, donc déjà deux médailles d'or pour Quentin Fillon-Maillet. D'habitude, c'est honneur aux femmes, mais bon, comme elles ont performé, on va garder le meilleur pour la fin. On va attaquer donc avec les gars. Sur le sprint, la Norvège, triplé norvégien, avec sur la light grid, Johannes Bø et Christiansen. Sur la poursuite, on va continuer, quintuplé norvégien. Donc, aux 5 premières places avec Johannes Bø, light grid et Christiansen. Le même podium que le sprint, mais pas dans le même sens. L'individuel, seulement un doublé pour les Norvégiens.
Eh bien, ils n'ont pas réussi celle-là.
Johannes Bø et Tarjei Bø, donc les frères Bø, qui trustent les deux premières places du podium. Avec l'Allemand Benedikt Doll, qui vient compléter le podium et prendre une médaille de bronze. Et sur la Mastart, ça s'est déroulé hier en fin d'après-midi plutôt. Johannes Bø qui s'offre un 20e titre de champion du monde et égale à légende son compatriote et légende norvégienne Ole Einar Bjørndalen. Il a maîtrisé sa course de fond en comble. Second vice-champion du monde, c'est la surprise lettonne. Alors, il a fait un 20 sur 20 au tir, c'est pas cadeau son nom. Je vais essayer de pas me tromper, Rastorgujevs.
On va pas t'en vouloir.
20 sur 20, il a fait une très belle course lui aussi. Et Quentin Fillon-Maillet, troisième, qui vient sauver le bilan français en individuel quand même. En décrochant une belle médaille de bronze, il s'est battu après avoir fait une faute au tir. Et relais homme, titre de la Suède devant la Norvège et la France. Les Français qui se sont arrachés aussi avec pas mal de fautes, mais ils ont profité des erreurs devant, notamment des Norvégiens pour aller chercher cette médaille de bronze.
Bon, les Norvégiens étaient sacrément en forme chez les hommes, mais chez les femmes, c'était pareil ou on a su s'immiscer ?
Oh non, on a fait même plus que s'immiscer. Alors, si on devait comparer, les Françaises ont fait quasiment comme les Norvégiens. Après un titre en relais mixte, donc la première course était le sprint féminin, quadruplé historique sur le sprint, 4 Françaises aux 4 premières places. Julia Simon, championne du monde. Justine Brezaz-Boucher, vice-championne du monde. Lou Jean Monod complète le podium. Et Sophie Chauveau, médaille en chocolat. On continue avec la poursuite où la France place 3 représentantes sur les 4 premières places avec un titre pour Julia Simon, 3e place pour Brezaz-Boucher. Et l'Italienne Lisa Vitozzi vient s'immiscer entre les deux Françaises et seconde. L'individuel, j'ai envie de dire, c'est celle où on a le moins bien réussi. Julia Simon se contente d'une 3e place après 2 médailles d'or. L'Italienne Vitozzi remporte cet individuel. Et sur la Mastart, hier, Justine Brezaz-Boucher vient s'adjuger son premier titre de champion du monde. Lou Jean Monod 3e, Julia Simon 4e, médaille en chocolat. Et sur le titre, ça a été un titre haut la main. Elles ont dominé de fond en comble. Lou Jean Monod, Sophie Chauveau, Justine Brezaz-Boucher et Julia Simon ont décroché l'or. Côté femmes, avec les trois relais, c'est 11 médailles sur 15 possibles en individuel. On peut dire que c'est pas trop mal. Au total, la France finit première au classement des médailles avec 16 médailles. Donc championnat du monde plus que réussi pour les tricolores. Il reste 4 étapes de Coupe du Monde pour Julia Simon, Justine Brezaz-Boucher, qui vont notamment se battre avec la Norvégienne Tendrevold, qui a complètement loupé ses mondiaux, pour aller chercher le gros globe de cristal. Et chez les Français, le gros globe de cristal, ça va être pour Johannes Bø, le glouton norvégien. Les Français vont se battre pour essayer d'être sur le podium de cette Coupe du Monde de biathlon.
Bravo à nos femmes, bravo à nos Français. Très beau championnat du monde.
Ouais.
Bon, alors là,
on va aller un peu plus vite que sur des skis de vent avec la Formule 1.
Ouais, et puis en plus, au biathlon, on voit le drapeau français rayonner, mais j'ai envie de dire qu'en Formule 1, c'est pas trop la même. Bon, du coup, je vais commencer cette petite preview du championnat du monde de Formule 1 par les changements au niveau des écuries pour les gens qui regardaient la Formule 1 l'année dernière. L'écurie Alfa Romeo, par exemple, ne s'appellera plus Alfa Romeo. Et oui, le contrat de sponsoring et de naming de Alfa Romeo avec la structure Sauber est arrivé à expiration. Car on le rappelle, Alfa Romeo n'était qu'un prête-nom. L'écurie derrière était bien Sauber. Eh bien, le nom Alfa Romeo est remplacé par une entreprise un petit peu méconnue, Stake. Alors, Stake, c'est une entreprise de casino en ligne, hébergée à Curaçao, plusieurs fois condamnée pour des pratiques financières illégales. Stake sponsorise, par exemple, si vous regardez la première ligue au foot, l'équipe d'Everton. Sauf que problème, nombre de pays, sur base de ce qui fait en France avec la loi E20, bannissent le nom Stake. Et c'est donc la filiale de cette dernière, la plateforme de live streaming Kick, connu pour donner des contrats à des streamers bannis par Twitch, qui prêtera son nom à l'écurie Sauber. Bon, ça c'est un petit peu la panade. Moi, ça me plaît pas beaucoup, mais bon, c'est le sport. Autre changement de nom d'écurie un petit peu désastreux, c'est l'équipe AlphaTauri. Alors, pour rappel, AlphaTauri, c'était la marque de prêt-à-porter de Red Bull. Sauf que le nom AlphaTauri ne marchait pas. Alors, il rendait plutôt bien en Formule 1, il rendait plutôt bien sur la voiture, mais la marque en elle-même, AlphaTauri, n'a pas décollé. Et Red Bull n'y voyait pas d'intérêt financier, alors Red Bull a décidé de, elle aussi, vendre le nom de l'écurie et tisser un contrat avec Visa pour donner un nom d'écurie finalement très long et très laid, Visa Cash App Racing Bulls. Alors oui, c'est Toro Rosso, c'est AlphaTauri, ça reste la même équipe.
Et c'est vraiment... Bon, après, ils prennent l'argent où ils veulent, c'est faire où ils ont besoin d'argent, mais bon.
Mais oui, là, on va passer au livret, mais Visa Cash App Racing Bull, c'est-à-dire que sur la livrée, t'as le gros logo Visa, t'as le gros logo Hugo Boss, le gros logo Cash App avec le dollar.
Bon, on se souviendra d'AlphaTauri et Pierre Gasly,
un bon c'est ça. Et pour les livrets, beaucoup de noir, car oui, le noir, ça permet en fait de ne pas mettre de peinture, et de laisser la fibre de carbone à l'air libre, comme si des écuries comme Williams et Sauber allaient jouer leur saison sur un petit peu de peinture en plus ou en moins sur la voiture. Merci à des écuries comme Ferrari, Red Bull, Aston Martin ou encore Toro Rosso, pour ne pas dire le nom complet de Racing Bulls, de mettre un peu de couleur, car tous les autres écuries jouent à mettre un petit peu de couleur pour ne pas être totalement en noir.
La Ferrari, je la trouve plutôt jolie, moi, cette année.
Ouais, elle respecte tradition, ouais, elle respecte la livrée de l'an passé. Moi, j'aime beaucoup.
On va passer à la vraie présentation de la grille, Arnaud, s'il te plaît.
Ouais. Alors, j'ai commencé par le bas de tableau, l'écurie Haas. Le directeur Steiner. Historique de l'écurie Haas, Gunther Steiner, s'est fait virer. Il est remplacé par Hayao Komatsu. Ouais. Dans ses entreprises à la tête de l'équipe, on a aussi le départ de Simone Resta, directeur technique de l'écurie. Le duo de pilotes reste inchangé chez Haas, comme dans l'ensemble de la grille.
Pas de rookie.
Aucun pilote ne change. Il y a juste Daniel Ricciardo qui vient remplacer Nick De Vries, qui l'année dernière débutait avec AlphaTauri, mais Daniel Ricciardo, on le connaît bien. Ouais, et chez Haas, pour revenir à Haas, Hülkenberg devra encore faire preuve d'audace pour emmener cette charrette dans les points. Il me tarde que Oliver Biermann, le crack de Ferrari en F2, remplace Kevin Magnussen, qui l'année dernière était vraiment morose, Kevin Magnussen. L'année dernière, on a remarqué des problèmes de gestion de gomme en course pour Haas, alors que la voiture était globalement assez bien finie, avec de bonnes prestations en qualification, notamment une deuxième place au Canada. Mais cette année, l'écurie Haas a directement douché les espoirs et s'attend à jouer le bas de tableau dès le début de saison. On a vu pendant l'hiver la bataille entre la FIA et la F1 sur l'ajout d'une 11e écurie en Formule 1, Andretti Cadillac, car Marco Andretti voulait entrer en Formule 1 avec son écurie Andretti. Il s'est associé à General Motors et l'entreprise Cadillac, mais demande rejetée par la Formule 1. Alors on peut se demander pourquoi garder Haas qui écume le fond de plateau chaque année et ne pas prendre Andretti Cadillac. Bah, c'est simple, chaque écurie veut garder sa place en Formule 1 pour prendre sa part du gâteau. Ajouter une 11e écurie, ça fait baisser de quelques petits pourcentages la part touchée par chaque écurie.
Oui,
c'est bon. Comme ça.
En organisant des grands prix à Las Vegas. Bon.
C'est ça. L'argent, L'argent est roi, comme dirait Lewis Hamilton. Mais bon, on va passer à Williams. Williams, une écurie qui fait plaisir. L'écurie de James Vowles. James Vowles qui avant était dans le staff de l'écurie Mercedes, qui maintenant est le directeur de cette écurie Williams. James Vowles qui va continuer à faire progresser Williams. L'année dernière, c'était une saison très positive pour Williams. Et comme pour les autres écuries, on se tourne avec optimisme vers 2026. Pour Williams, on va certainement laisser de côté les saisons 2025 et 2024 pour plancher sur cette révolution technique de 2026.
Ça va être quoi les révolutions pour 2026?
Bon, alors oui.
Ça va travailler sur quoi?
Pour introduire aux gens qui ne sont pas familiers à la Formule 1, la Formule 1 marche par cycle. Là, par exemple, on est dans le cycle de la révolution 2022. Une révolution qui est arrivée en 2022, qui a chamboulé la grille. Et la prochaine révolution technique, c'est en 2026, donc notamment avec un carburant réutilisable, une plus grande utilisation du moteur électrique. Et après, bon, de nombreux détails techniques qui n'intéresseront que nos copains ingénieurs. Mais pour à vrai dire, c'est ça le jeu de la Formule 1, c'est plancher au maximum sur la nouvelle réglementation pour arriver paré et jouer, on l'espère, le haut de tableau pendant plusieurs années. Car par exemple, c'est ça, un Red Bull a réussi à battre Mercedes pour cette révolution 2022 et domine depuis.
Et va dominer, va continuer à dominer.
Ouais, va continuer à dominer cette année. Alors là, on n'est pas sur une équipe qui joue le championnat du monde, mais Kick Sauber, alors je vous l'ai dit, livré moche. Duo de pilotes déjà usé avec un Bottas qui l'année dernière n'était pas dans son assiette et un Guan Yu Zhao très inconstant. Je suis pas optimiste, mais l'écurie ne montre en même temps pas de signe positif pour relever la barre. Il faudra juste rester en vie avant l'arrivée de Audi. Audi qui va reprendre cette écurie Sauber en 2026.
Et... Au moins, on rigole bien avec Bottas.
Ouais.
Je sais pas si.
On rigole bien.
Sur les réseaux, notamment.
Ouais.
Donc, tu continues à nous faire cette présentation. Et pour nos Français, chez Alpine, on en est où?
Ouais, alors pour Alpine, on a un changement au niveau du board. Alors, on a vu se succéder les directeurs d'écurie avec David Ebrivio, avec Laurent Rossi. Aussi, ouais. Cette année, c'est Bruno Famin qui prend les responsabilités. Bruno Famin, qui l'année dernière avait un rôle de directeur plus général et qui cette année a délégué les activités en usine pour se concentrer sur les Grands Prix. Bruno Famin sera présent à tous les Grands Prix pour Alpine. La voiture est intéressante et devra faire le boulot pour compenser le déficit moteur parce que les moteurs sont gelés aussi en Formule 1. Voilà. Tu arrives avec un moteur et on te dit qu'il ne bougera pas pendant 3 ans. Le moteur Alpine, par malchance, a un déficit d'à peu près 10 chevaux comparé aux autres moteurs.
C'est énorme.
Ça devrait être compensé par le châssis et les différents réglages.
Bon, toujours Gasly et Ocon.
Ouais. Je vous l'ai dit, les duos ne changent pas. Vous ne serez pas dépaysés. 11 contrats de pilotes arrivent à expiration en fin d'année, donc le jeu des chaises musicales sera ardu. On parlera ensuite après de Lewis Hamilton, mais pour l'instant ça change pas. Pour passer ensuite chez la petite sœur de Red Bull, Visa, Cash App, Racing Bull, je sais plus, c'est trop long, je sais pas le dire. Le partenariat de cette écurie sœur de Red Bull est renforcé avec l'écurie mère Red Bull, au grand déplaisir des autres équipes. Car oui, par exemple, Racing Bull récupère toutes les suspensions de Red Bull cette année, ce qui assurera de gros progrès à l'écurie AlphaTauri. Ça va faire peur aux concurrents, le duo de pilotes a maintenant de l'expérience pour Yuki Tsunoda, qui en est à sa troisième, quatrième année de Formule 1, je ne sais même plus, troisième année de Formule 1,
troisième, ouais, je crois.
Ouais, pour Yuki Tsunoda, duo très talentueux à surveiller cette écurie, car
Tsunoda.
Moi je m'attends à tout.
Et qui, c'est qui l'autre pilote?
Daniel Ricciardo.
Ricciardo.
Ouais, Ricciardo encore
plus. Lui aussi, on rigole bien. Allez, lui.
Et pour les écuries qui se battent pour le podium.
Les grosses écuries, ouais. Dis-nous tout, celles qui nous intéressent le plus finalement.
Ouais, alors j'ai mis dans cette catégorie Aston Martin, même si en vrai c'est un petit peu le flou. Gros changement pour cette année 2024. Alors on s'en rappelle du début de saison passée avec Aston Martin qui était la troisième écurie du plateau, qui enchaînait les podiums avec Fernando Alonso et qui a disparu en fin de saison. Alors cette année, Aston Martin espère refaire le même coup, mais rester dans le jeu toute la saison. Ils n'ont pas chômé cet hiver dans leur nouvelle usine de Silverstone, Et on a eu, enfin moi j'ai lu une interview de Fernando Alonso, plus motivé que jamais, Fernando Alonso qui a l'intention de continuer en Formule 1 après 2024, qui a envie de se battre pour trouver un contrat avec Aston Martin ou ailleurs. Donc moi je m'attends...
40 ans il a, non ?
Plus !
Plus !
44 ans !
40... Ah ouais ?
43 ou 44, je ne sais plus, je te vérifie ça vite fait, mais oui, hein, Lewis Hamilton approche des 40 ans où il continue en Formule 1, mais Fernando Alonso, il a 42 ans.
42 ans, ouais.
Il en aura 43 en juillet, toujours dans une Formule 1, toujours,
toujours avec Stroll, le jeune.
Ouais.
Donc.
Lance Stroll qui est toujours en CDI.
Merci papa.
Alors on va voir, est-ce que c'est la bonne année enfin pour Lance Stroll, je l'espère pour lui, mais ça fait 5 ans que j'espère que ce sera la bonne année pour Stroll, vu son talent, mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent en faire grand chose en Formule 1, lui qui se concentre plus sur le surf, sur le hockey sur glace, c'est dommage quand t'es pilote de Formule 1, mais bon, profite un petit peu Lance Stroll, on rêverait tous d'être à ta place. Pour l'écurie Mercedes, l'écurie a confiance en sa voiture et en son écurie. Et l'écurie et Lewis Hamilton auront à cœur cette année de laisser une bonne dernière page, une bonne dernière empreinte, ce qui est l'une des plus belles histoires de l'histoire de la Formule 1, Lewis Hamilton et Mercedes. Bon, moi je sais pas trop à quoi m'attendre à Mercedes, je pense pas qu'ils joueront le titre, je pense plutôt qu'ils joueront la deuxième place comme l'année dernière. La principale question c'est qui pour remplacer Lewis Hamilton. Alors moi j'ai un candidat. Je le supporte pas parce qu'il est juste français, c'est Esteban Ocon. Esteban Ocon qui fait partie de la Mercedes Academy depuis de nombreuses années, depuis 7 ou 8 ans. Alors, pour, ça fait 3 ans qu'il fait plus partie de la Mercedes Academy vu qu'il est sous contrat avec Alpine. Mais Toto Wolff reste son manager. Il a de beaux contacts chez Mercedes. Il montre de belles choses depuis 2 ans.
On pourrait penser à Piastri aussi.
Ouais.
Pour remplacer Hamilton.
Ouais, alors pour moi, la seule autre grosse possibilité, hormis Esteban Ocon, c'est Oscar Piastri, qui a un contrat jusqu'en 2025 ou 2026, je crois. Mais ça ne fera pas peur à Mercedes de racheter quelques années de contrat. Et Oscar Piastri, qui a montré de belles choses l'année dernière, et qui effectivement pourrait profiter de ce baquet Mercedes pour inscrire une belle page en Formule 1. Alors on va continuer avec McLaren, l'écurie McLaren, il n'y a pas grand chose à dire. Lando Norris a été prolongé jusqu'en 2028, je crois, il s'inscrit sur la longueur. Norris a confiance en son programme, McLaren a confiance en son très bon pilote. Piastri est encore un pilote formidable et la voiture a l'air dans la lignée de ce qui s'est fait l'an dernier, où ils avaient réussi à décrocher de nombreux podiums en fin de saison. À surveiller aussi cette équipe, bah, car là je pourrais pas vraiment vous donner... la place qu'aura cette écurie McLaren après le premier Grand Prix de la saison. Pour Ferrari, bah pareil, Ferrari, pas grand chose à dire non plus, la voiture reste à peu près similaire, l'écurie va aussi tenter de se battre pour la deuxième place. Moi j'aurais un petit warning à mettre sur le mental de Carlos Sainz, on le sait, Carlos Sainz a plusieurs fois subi des pertes de mental dans des courses ou dans des fins de saison. Et là, Carlos Sainz, il sait que pour l'année prochaine, il n'a pour l'instant pas de baquet en Formule 1, vu qu'il est remplacé par Lewis Hamilton. Carlos Sainz aura à cœur de montrer de quoi il est capable pour trouver un nouveau baquet, pourquoi pas chez Audi, pourquoi pas ailleurs, mais ça pourrait l'amener à faire des erreurs aussi. Charles Leclerc, lui, par contre, a re-signé un contrat de très longue durée avec Ferrari. La date d'expiration de ce contrat n'a pas été communiquée, mais on peut s'attendre à un contrat qui va à peu près jusqu'en 2027 ou 2028. Et enfin, on termine avec Red Bull. Red Bull, bon, pour l'instant, dans la tourmente, après les histoires judiciaires de Christian Horner et les on-dit sur la relation entre Christian Horner et Helmut Marko, on va laisser l'histoire judiciaire se dérouler comme elle se doit. L'écurie en elle-même, par contre, roule toujours aussi bien. Pérez annonce qu'il revient aussi motivé que jamais, discours habituel. Verstappen n'a pas parlé, mais va parler sur la piste, discours habituel. Rien ne change sous le soleil, on s'attend à peu près à la même chose pour l'écurie Red Bull pour l'année prochaine.
Ouais, vivement cette saison 2025, au moins voir Hamilton tout en rouge.
Ouais.
Ça va être quelque chose de fort, je pense.
J'espère
qu'il aura des garanties sur la voiture pour qu'il se botte avec... Verstappen, ce serait énorme de le voir.
Ouais.
8e titre avec la Scuderia, ça serait formidable.
Ce serait énorme, même si je pense que, pour être honnête, en 2025, Ferrari se concentrera plus
sur 2026.
Ouais, sur la saison 2026 et pour donner une bonne voiture à Leclerc et Hamilton pour la saison 2026. Moi, je pense que bon, au-delà d'être un choix sportif, parce que Ferrari est une très bonne écurie, c'est surtout un choix de cœur. Voilà, la dernière histoire de Lewis Hamilton en Formule 1. Avec Ferrari, on en parle depuis 5 ou 6 ans, ça oui, c'est enfin fait.
C'est le mariage de deux légendes de leur sport.
C'est le mariage qu'on faisait tous dans nos rêves depuis 10 ans.
T'as pas fini sur la F1, les essais de pré-saison
ouais. Ouais. Ce week-end, il y aura les premiers essais de pré-saison à Bahreïn. Et premier Grand Prix le week-end prochain, du 29 février au 2 mars. Et attention à vos calendriers, car le week-end habituel du vendredi au dimanche est bousculé. Ce week-end se déroulera du jeudi au samedi pour respecter les fêtes du Ramadan qui se déroulent le dimanche à Bahreïn.
Et premier Grand Prix.
Premier Grand Prix, mi-mars. C'est Bahreïn.
Bahreïn, mi-mars.
Bahreïn, 29 février au 2 mars.
Mais non, c'est...
Comment ?
C'est pas les essais de pré-saison ?
Non, les essais de pré-saison, c'est ce week-end.
Eh ben.
Essais de pré-saison ce week-end.
Ah ouais, merde, pardon.
Donc, du 24...
Ah, mais c'est si tôt, là ?
Oui, 24-25
essais tôt, de pré-saison. C'est
hyper tôt, cette
année ? Ben, ouais. Genre de...
Ah c'est, ouais c'est l'intersaison le plus court de l'histoire de la Formule 1. Ben, en même temps, il faut caler 24 Grands Prix par saison. 24 Grands Prix par saison, ouais, il faut putain. Les caler. Ouais. Et oui, pardon. On a même pas eu le temps de faire le deuil de la saison passée que ça reprend déjà. Moi, je préférerais des saisons à 16 ou 17 Grands Prix, mais bon, on peut pas être content de tout.
L'argent est roi.
C'est ça. Mais pour les fans du sport auto ou un sport qui, lui, manque d'argent, le WRC, le rallye de Suède qui a eu lieu ce week-end. Beau rallye de Suède avec la neige et victoire d'Esa-Pekka Lappi devant Elfyn Evans et le premier podium en WRC du français Adrien Fourmeau. Bravo Adrien. Et pour enchaîner sur la monoplace, on a eu ce week-end la conclusion des championnats de monoplace hivernaux. Les championnats qui permettent aux pilotes de se mettre en jambes avant la saison de formule de promotion. Alors, on a notamment eu la formule régionale Middle East Championship. Bon, ces formules hivernales se déroulent au Moyen-Orient. Tuukka Taponen a été champion. C'est de très bon augure avant sa saison en Freca. Théophile Naël, le premier français, est 11e. Mais a tout de même signé une victoire, 3 podiums et 2 belles courses. On a aussi eu la conclusion de la F4 Émirats Arabes Unis. Avec le crack Freddy Slater, champion, avec un très beau duel devant notamment d'autres jeunes grands espoirs du karting qui arrivent enfin en monoplace, comme Kin Nakamura Berta ou Kinu El Hazari, qu'il faudra surveiller dans les années à suivre. Enzo Delini et Dorian Pain, les Français qui ont participé à ce championnat, ont été chercher une victoire. Jules Caranta, autre Français qui a participé au championnat, on le rappelle, Jules Caranta, champion de France de karting, qui a pu s'acclimater à la monoplace avec ce championnat. Et en autre formule de promotion hivernale, on peut citer la Formula Winter Series en Espagne, où Pacom Weisenberger, un autre Français, a pris part, mais n'a pas su se mettre de bon pied avec des qualifications ratées. Alors je vais vous présenter aussi les formules de promotion à venir cette saison. Je vais essayer de ne pas être trop long pour commencer la Formule 4 France. Ça démarre avec la traditionnelle Coupe de Pâques le 1er avril à Nogaro. C'est pas loin d'ici, Nogaro, si vous voulez faire un tour, je vous invite fortement. Pas de Grand Prix de Pau cette année, on le rappelle, au calendrier de la F4 France. Mais j'ai vu que la mairie de Pau avait envie de mettre des festivités Place Clémenceau lors des dates habituelles du Grand Prix de Pau. Bon, une mairie qui se fait de l'illusion en espérant profiter des retombées économiques du Grand Prix sans le Grand Prix. Moi, je suis étonné. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. Je trouve ça un petit peu culotté. pour la F4 France, pour y revenir, une grille assez hétéroclite. On note quelques redoublants comme Yannis Steven Aydens qui jouera le titre. Mais aussi de beaux débutants comme Arthur Dorisson, Pacom Weisenberger, Jules Caranta, Augustin Bernier ou encore Dylan Estre, le petit frère de Kevin Estre. De nombreux talents du karting qui seront sur les starting blocks pour se mettre en jambes en monoplace. La formule régionale alpine, pour continuer, la Freca, avec pas mal de Français sur le line-up. Alessandro Giusti et Evan Gilter, les deux derniers champions de F4 France, seront chez Art et ils lutteront à coup sûr pour le haut tableau et pour le titre. En autre Français, on peut citer Romain Andriolo chez G4 Racing, Enzo Peugeot chez Saint-Éloque, l'écurie française, Et le champion de F4 espagnol, qui est lui aussi français, Théophile Naël, toujours aussi chez Saint-Éloque, je crois. Enzo Delini courira cette saison avec le team français RAIC GP. Et pour les autres leaders, on retrouve vite fait chez Prima, Raphaël Camara, James Wharton, Hugo Ogochukwu, Tuukka Taponen, champion de formule régionale Middle East, on vous l'a dit, qui arrive en trombe. Et Noah Stramstedt aussi, qui arrive de la F4 danoise. Voilà, plein de petits noms qui seront à surveiller si vous voulez vous mettre devant l'Africa. En plus, information importante, les courses d'Africa sont disponibles gratuitement sur YouTube. Si vous avez envie de vous y poser devant, c'est très, très jouissif. Et enfin, pour aller vite fait sur la Formule 3 et la Formule 2, alors on va commencer par la Formule 3 avec une grille très bien fournie. Je ne vais pas vous donner tous les noms, mais si vous êtes familier avec le monde du sport auto, vous connaîtrez beaucoup de noms. Grille très intéressante. Et on a le français Samy Meghetounif qui participe à la F3 chez Trident. Ce sera certainement la chance de Samy Meghetounif se baquer en F3 pour prouver, pour aligner de bonnes performances et pourquoi pas continuer sa carrière en monoplace. En Formule 2, c'est pareil, une grille très impressionnante. Vous pourrez aller voir les noms par vous-même. Et pour les Français, on peut voir Victor Martins et Isaac Hadjar évoluer. Les deux Français redoublent. Ils restent pour une deuxième saison et devront se montrer très compétitifs. Car Victor Martins et Isaac Hadjar auront tous les deux leur rôle à jouer pour la saison de Formule 1 2025. Victor Martins est en compétition pour un baquet chez l'écurie Alpine. Pourquoi pas en remplacement de Esteban Ocon. Et Isaac Hadjar, qui est le petit poulain de l'écurie Red Bull, sera lui aussi en concurrence pour le baquet Racing Bull Visa Cash App.
Et pour Cher, qu'est-ce qu'il fait cette année? Parce qu'il était champion du monde de F2, non?
Ouais, et non, bon, il y a la règle un petit peu débile qui fait que le champion du monde de Formule 2 n'a pas le droit de redoubler. Victor Martins y participera à la Super Formula, cette compétition monoplace au Japon, avec le team Inpool. Il sera à coup sûr à la lutte pour le titre et pour ceux qui ne connaissent pas la Super Formula, c'est quand même un bon rendez-vous. Par exemple, Pierre Gasly avait fait une saison de Super Formula, avait gagné, je crois, le titre de Super Formula et était ensuite arrivé en Formule 1. Tout comme Liam Lawson, qui a fait le début de saison en Super Formula et qui a ensuite remplacé Daniel Ricciardo chez Toro Rosso l'année dernière. Donc voilà, on est confiant pour Cher, on croise les doigts. Et là, je vous ai parlé de la saison de Formule 1, de championnat de monoplace, qui va partout sur le globe.
Sauf à Pau.
Mais Pau, on s'y intéresse ici avec le récap palois de notre cher Baptiste.
Oui, donc le récap palois, c'est devenu un rendez-vous incontournable maintenant. C'est la rubrique qui va mettre en avant l'actu sportif des clubs de l'agglomération de Pau. On va commencer avec le Billard Handball qui marche sur l'eau en ce moment. Ils sont sur 6 victoires d'affilée, dont les récentes après la trêve contre Nancy et Besançon. Les voilà 6e en position de jouer les playoffs d'accession. On est quasiment à la moitié du championnat, ils sont donc en bonne posture. Ce week-end de vendredi, c'était un déplacement sur le parquet au gymnase d'Angers qui lutte pour le maintien. Et la série se poursuit, donc 7e victoire d'affilée, un succès acquis 27-25. Qui permet aux Bernais de continuer leur folle remontée. Ils sont provisoirement 5e. Rendez-vous vendredi prochain, le 23 février, au Sporting d'Est pour une confrontation contre Massy. On poursuit avec le Pau FC. Le Pau FC un peu en demi-tête en ce moment. 9e au classement avant de recevoir Quevilly-Rouen qui était 19e et à 6 points de la première place non relégable. La 16e place occupée par 3. Mais pour les Palois, c'est une défaite 2-0 qui ont fait face à des Normands bien plus réalistes. 3 tirs cadrés, 2 buts. Pau pointe maintenant la 12e place du classement de Ligue 2 avec 7 points d'avance sur la zone de relégation et 5 points de retard sur la 3e place. Donc Pau essaiera de rebondir la semaine prochaine au Stade des Alpes face à Grenoble. Pardon.
Okay, ça fait bizarre qu'on part au début de saison où Pau était en haut de tableau. Là,
ouais, dommage, même à la trêve, ils étaient 3e et 4e. Maintenant, 7 points, je veux dire, c'est vachement serré en Ligue 2 cette année.
Après, 12e place, c'est une place un petit peu plus habituelle pour le Pau FC.
Oui, mais bon, tu sais jamais. Si tu t'accroches à 5e place, tu gagnes ton pré-barrage contre le 4e. Puis tu gagnes ton barrage contre le 3e, tu peux te retrouver à monter un peu, pas par hasard, mais tu donnes une chance d'y croire encore.
On va les encourager, nos amis du Pau FC.
On enchaîne pas loin de là avec la section paloise qui commence, si je puis dire, un peu rentrée dans le rang avec 4 défaites consécutives en top 14, entrecoupées quand même de 2 victoires en Coupe d'Europe, en Challenge Cup. Samedi, c'était un déplacement à Chavandelmas pour affronter l'UBB pour le compte de la 15e journée de top 14. Des Bordeaux-Bègles qui ont été amputés un peu d'internationaux. Je pense à la charnière de l'équipe de France, Lucu, Jalibert notamment. Mais quand on voit l'équipe qui commence avec deux porters, Huberti, Puros,
une troisième ligne, Lamotte, Tatafou, Gazzotti, Beauchaton.
Je veux dire, c'est quand même une équipe assez redoutable à la maison. Mais bon, la section paloise a subi en seconde période et toute la partie en règle générale. 256 plaquages sur toute la partie. Avec 20 points marqués à la pause, un peu contre le cours du jeu, avec des essais des jeunes Desperes et Samuel Ezeala. Dobania s'est chargé des autres points au pied. Victoire importante 20-10, permettant aux Verts et Blancs de rester dans le top 6. Plus maintenant avec la victoire de Castres hier soir face à Toulon.
Ouais.
Toulon qui se rendra la semaine pro au Hameau. Voilà, un coup à jouer pour les Palois face à des Toulonnais aussi.
Ouais.
Impacté par cette période de doublon.
Et se remettre dans le jeu, parce que cette partie à Bordeaux a certes été remportée 20-10, mais on l'a vu, ils ont été dominés dans la conquête, dominés dans le jeu, des Palois qui ont su aligner les bons éléments, avec cette interception de Ezeala et cet essai un petit peu chanceux de Desperes. C'est une victoire à prendre, mais c'est une victoire qui ne rassure pas vraiment dans le jeu.
Ouais, bon, c'est 4 points à l'extérieur quand même, donc ils vont pas y cracher dessus.
C'est
et
vrai.
On va finir par l'Élan Bernay, qui s'est qualifié pour le top 8 de la Coupe du... la Coupe du Monde, j'allais dire, non, la Coupe de France, en disposant d'un club de... évoluant en Pro A, Gravelines Dunkerque, sur le score de 74 à 63. Les Palois, menés par Dylan Afomama des Grands Soirs, 20 points, 8 rebonds, créent la surprise de ces 16e de finale, clairement. Et les Palois sont donc qualifiés et nous donnent rendez-vous le week-end du 16-17 mars pour le top 8. C'est sur 2-3 jours. Il y aura d'abord les quarts de finale, puis les demi et la finale. Donc c'est un peu façon Final Four en Euroleague.
En quelques jours comme ça, rassemblés ?
En 3 jours, ouais. Sur Trélazé, ça a lieu. Le tirage au sort aura lieu la semaine, en fin de semaine. Et côté championnat, les Bernais profitent jusqu'au 1er mars d'une trêve, si je puis dire. Et ils reprendront par un match le 1er mars au Palais des Sports contre Angers, lanterne rouge de Pro B. Depuis la reprise début janvier, les hommes du convalescent coach Eric Barcecchi sont sur 5 victoires en 7 parties, ce qui place les Béarnais 7e au classement de Pro B. Et enfin, c'était la nouveauté, si je puis dire, en début d'émission. Cette semaine, au Palais des Sports de Pau a lieu la 5e édition du tournoi Challenger de tennis de Pau, dont le directeur est Jérémy Chardy, un ancien joueur pro et entraîneur de Hugo Humbert notamment, qui est dans le top 20 mondial. C'est l'occasion de voir un très bon niveau mondial de tennis. Super initiative de la part de l'équipe d'organisation. Tous les matchs jusqu'à vendredi, donc jusqu'au quart des finales, sont disponibles gratuitement au Palais des Sports donc, et sur le court annexe au Tennis Club de Pau. Et c'est un tarif abordable pour le week-end si vous voulez voir la finale de double et la finale de simple notamment. Vous pourrez sur la semaine voir jouer Benoît Paire, David Goffin. Benoît Paire, je pense que c'est un nom qui parle à tous les tennismans, à tous les amoureux de tennis.
C'est plus une personnalité qu'un joueur de tennis maintenant dans l'esprit des gens.
Ah, c'est vrai, j'aime bien cette comparaison. Ouais. Et Goffin qui est quand même ex numéro 7 mondial, qui a connu pas mal de galères avec plein de blessures notamment. Qui a fait des grands chelems, des quarts de finale en grand chelem. Donc voilà, je vous donne rendez-vous si vous le voulez au Palais des Sports pour voir un peu de tennis, voir à quoi ça ressemble le très haut niveau.
Ouais. Et bien merci Baptiste.
Merci Arnaud.
Ces actualités de Pau. Merci à vous
tous
pour l'écoute. Ouais. On l'a dit à l'unisson, c'est parce qu'on vous aime beaucoup. Bisous tout le monde. Bisous Baptiste.
À la prochaine.
Ouais.